그래서 수학 강의 그 야수 공부공부공부 강의 인자 사연의 바로 나라 합치고 공부 합치고 그리고 이렇게 나 전혀 그렇지 un peu dans l'interprétation, on verra plus dans les détails, on va partir de demain. C'est ceci, l'atmosphère de la kavana de la tfila, l'atmosphère naturelle, c'est chesed. Elle doit faire la preuve devant la Torah, et puisque je suis dans Elohim Abraham, surtout, je dois faire la preuve de la tfila. C'est la Torah. Bien, voilà donc la première vraie que je voulais vous dire aujourd'hui. Il nous reste une phrase que j'ai pas lue dans la Sidia et que nous allons lire maintenant, la dernière phrase.
C'est une bien que
le passage en. Alors lisez-la avec moi, si vous voulez. Ravanan, Avde, Kematintin. Ravanan, Avde, Kematintin, nommez. Faisait comme la Mishnah qui disait En Andin Leitpalel et la Mitor Kovedrosh. Il faut d'abord être dans une attitude sérieuse, propre, au plaideur devant le tribunal, comme il l'a dit tout à l'heure, pour avoir le droit de prier. Peut-être reviendront demain sur ce sujet-là. Donc, Rabbanan, en général, nos maîtres faisaient comme avait dit la Mishnah, d'abord le Kovedrosh et ensuite la prière, et c'est pourquoi, en particulier, on a institué la lecture de psaumes. Le truc que les Zimra. Amicha, c'est beaucoup plus restreint, mais il y a aussi le psaume, en tout cas au moins chez le Betecha. Hein? Et puis, c'est à sorte de donner le Kovet Roche, duquel on commence à entreprendre la prière. Tandis qu'on nous ajoute Rav Ashi Abid Kebraïta. C'est-à-dire que Rav Ashi, en particulier, faisait comme cette Braïta. C'est-à-dire, lisez une halakha psuka, se remémorer une halakha psuka avant de commencer à prier. Certains d'entre vous connaissent déjà certainement la réponse, mais je voulais signaler que c'est une des phrases de l'ensemble du Talmud est plus mystérieuse. Ravanan avde kematnutin, ravashi avid kabaraïta. Pourquoi? Parce qu'il était, comment dire, singulier, comment dire aujourd'hui, contestataire. Tous les maîtres faisaient comme la Mishnah, mais lui faisait comme la Braïta, c'est-à-dire à la Chapsuka d'alors. La réponse est très simple. Qui était Rav Ashi? Il était le greffier de la Gemara. C'est Rav Ashi et Rabina qui ont mis par écrit toute la Gemara. Ça veut dire que Rav Ashi en particulier avait en tête toutes les mahlokotes possibles et imaginables. Alors lui, le pauvre, il ne pouvait pas faire autrement. Et il devait passer par une Chapsuka pour rester juif et faire ça. Oui, donc finalement. Il n'y a pas tellement de mystère, mais le fait que la Gemara nous les indique est encore une pointe d'humour très, très profonde. C'est-à-dire, Ravanan, Avdi Kematintin, et Ravashi, lui, il fallait le passer. Donc, on a découvert ici une réalité très importante. Halakha, Psuka, Saïdi, je l'ai rencontré, c'est une petite histoire. Et trois exemples, regardez ce qu'elle dit. C'était important de situer dans chacun de ces textes. Au fond, c'est peut-être un peu cela qui nous manque de notre temps, la certitude que Halakha Psuka, ça existe. Alors donc, la tfila aussi est possible. Ça se relie de façon générale à tout ce problème de la dialectique entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. Est-ce que la Torah de vérité est dans la réalité? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Halakha Psuka. Je vous propose d'ailleurs, je pense que vous avez sûrement des questions, il nous reste encore 10 minutes au moins. Je vous propose d'ailleurs demain de vous lire très rapidement la manière dont le Rav Nachman de Breslav, dans un des passages de l'Ikoutei Moharan, a parlé un peu par la bande de ce problème, mais en vous citant un minhag, d'abord deux choses. Si vous avez les sidurim avec kavanot, que ce soit chez les Ashkenazim, les Mitnagdim ou Chassidim, ou dans le sidur du Hari, c'est-à-dire le sidur avec les textes qui nous donnent la préparation de Kavana avant de commencer le Shmoneh Esrei. Vous voyez qu'il y a une règle extrêmement importante, que on doit, avant de commencer la Tfila, on doit se remémorer la Mitzva de Ve'ahavta le'ra'acha kamocha. Vous avez dû remarquer ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer la tefila si on est dans une atmosphère de marloquet. Je pense que c'est clair. Alors d'abord, on se rappelle la Midrash de Kavana, de Ve'ahavta le'racha kamocha, et après seulement, on a le droit de commencer la tefila. Et en particulier, nous verrons ça de Manorah Nachman, c'est que lorsqu'on est dans un minyan, où on est en marloquet avec qui que ce soit, pourquoi que ce soit, on n'a pas le droit de faire la tefila dans le même minyan. Alors il y en a un des deux qui sort. Vous avez vu la multiplication des minyanim, vous savez. C'est pour ça qu'il y a tellement de minyanim. Et parce qu'il y a une contradiction. Comment je peux faire la tefila alors que je suis en marloquet, pour quoi que ce soit, dans le minyan? Vous avez compris le problème. Il y avait donc une sorte d'assaise, d'évacuation de l'atmosphère de marloquet avant de pouvoir commencer la tefila. Et dans des synagogues, qui ont encore les anciens rites d'avant, l'ancienne habitude juive, il y a un rite très joli que je vais vous citer. Peut-être que vous pouvez encore trouver ça dans les synagogues qui ont gardé l'ancien rite espagnol. Et c'est que, avant de commencer la tefila, chacun se tourne vers tous les autres et fait un signe de la main. Vous avez remarqué cela? En se saluant, parfois même en s'inclinant, de telle sorte de reconstituer le minyan de façon franche, enfin, sans marloquet, pour pouvoir commencer la tefila. Mais imaginez un minyan où il y a des gens qui ont des problèmes, quels qu'ils soient, on ne peut pas prier. Alors nous verrons que ceci a été mis en forme par le Rav Nachman de Brest de façon très profonde, mais tu diras peut-être cela demain en début d'analyse. Alors on va se rappeler cette kavana. Avant de commencer, Adonai Sfatai Tiftach, nous avons dit kavana du mot Adonai. Adonai Sfatai Tiftach, Piyagite Ilatecha, on se salue en disant sinon ça n'a pas de sens de prétendre cette entreprise périlleuse de demander quoi que ce soit puisque bien sûr il y a la Khapsuka. Vous voyez à peu près le
mais est-ce que donner la tzedaka avant de commencer la tefila, est-ce que c'est une sorte de Ve'ahavta le'racha kamocha?
N'importe quel simcha shel mitzvah, c'est tout spécifique ça sur cette Gemara en citant les Yerushalmi. Il dit, celui qui s'occupe de Iske Tibur, celui qui s'occupe des affaires de la collectivité, Keha Lachapsuka Damia. Ça veut dire, ça ressemble comme s'il avait étudié dans Lachapsuka. Pourquoi? C'est la même chose. Et c'est la même chose encore dans la réalité. Il s'occupe des affaires de la collectivité. Donc il s'occupe de faire qu'il y ait le moins de marloquettes possible. Le FSU, par exemple. Tosso cite que c'est équivalent. Il donne une autre expression qu'à la Rapsuka, Tosso en citant le Talmud de Jérusalem, Dvar Torah. Alors, il faut savoir qu'il y a équivalence absolue. Dvar Torah, c'est à la Rapsuka. Mais la différence avec Dvar Alacha. Quand on dit Dvar Torah, de quoi ouvrir les guillemets, ça veut dire c'est Stam Torah. C'est Stam, ça veut dire la plus marquée. On n'a même plus besoin de citer au nom de qui on a dit ça, parce que il n'y a plus de marloquet. Aujourd'hui, dans l'histoire contemporaine, c'est l'inverse. C'est d'après quand il y a marloquet qu'on ne cite pas de qui ça vient. Mais vous comprenez ce que je n'ai pas dit. Mais comme on dit en français, que chez Borot Betikunam, quand les choses sont normales, ça veut dire Stam Torah s'appelle Dvar Torah, alors que Dvar Alacha, vous voyez, il n'y a pas de contradiction. Dvar Alacha, c'est la marloquet. C'est encore quand il y a le marloquet. Mais Dvar Torah, c'est Halakha Psouk. Je crois que quelqu'un voulait poser une question. Ah oui, oui.
Une synagogue de Salvi qui a disparu partout ailleurs. Le Kaddish avant dans le chemin de l'esprit, on se posait à droite, à gauche et on levait les deux mains.
Eh bien, c'est à ça que je suis allé.
Ça ne trouvait pas.
Ça s'est perdu. Non, pas partout. Pas partout. Non, pas partout. Il y a encore des minyanimes. Mais effectivement, dans le rite saloniciens, c'était. C'est répandu. Oui, quel?
Une question par rapport à ce que tu dis, que notre problème juste sur les buts, c'est la station de bus, l'école de bus. Est-ce qu'on a été libéré de la prière?
Attends, expliquez. Là, tu fais que juste que suggérer.
Oui, parce que j'ai dans la veille un peu l'enseignement du Maharal.
Ah, sur la station de bus?
Quel?
C'est-à-dire, non, vous voyez, il y a une relation là. Le fait que nous soyons debout, ça rend possible le face-à-face au Créateur. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dirait ça en latin, l'animal religieux, l'homme, homo religiosicus, c'est la station de vie. L'homme en tant que... Non, il y a une marche, ok. Si on est debout, la halakha est comme ça. Si on est assis, on reste assis. Si on est debout, on reste debout. Il y avait une marche dans le Bet Din et Bet Shammai. Et pour pas qu'on croit qu'on fait contre Bet Shammai qui demandait à être couché, alors la halakha est comme ça. Sinon, non, mais je veux dire qu'il n'y avait que deux exceptions. Le grand prêtre et le roi avaient l'autorisation de prier à genoux. Et vous voyez que nous sommes dans une sensibilité religieuse opposée à l'Occident, d'une certaine manière. Spontanément, on penserait que ou à l'Orient, d'ailleurs. À l'Orient, c'est l'attitude de l'islam. Okay? L'islam, qui signifie en arabe, soumission absolue. Et en Occident, plier le genou, comme on dit. Mais ici, c'est une toute autre sensibilité. Et nous sommes en situation de jugement dans cette prière-là. Okay? Et par conséquent, et la position du jugement, c'est « Lève-toi, qui es-tu ?» C'est Amida. Mais voilà pourquoi il y avait exception pour le roi et le grand prêtre. C'est-à-dire, cette exception nous est autorisée au moment du Sedera Avoda pour toute la communauté. Les Ashkenazim ont gardé ça de façon stricte. Je vous dirai pourquoi, pas les Sfaradim. Tout simplement parce que chez les Sfaradim, ça ressemblait trop à la position de l'islam. Alors on se borne à faire semblant de s'agenouiller. Tandis que chez les Ashkenazim, on n'avait pas ce handicap. Agenouiller, il ne s'agit pas d'agenouiller, il s'agit de se mettre à plat ventre. Okay? Dans la Ishtachavaya du Sedera Avoda. Alors que les Ashkenazim l'ont gardé de façon stricte parce qu'il n'y avait pas ce danger de croire voler à peu près le bol. C'est-à-dire, de nouveau, il faudrait reprendre le Minag Ashkenaz sur ce principe-là. Chez les Sfaradim, le Chazan en tout cas, avait obligation au moins de faire toucher le genou à terre, mais ce n'était pas du tout recommandé pour les autres. Pour les autres, on s'accroupissait comme ça, pas plus. Tandis que les Ashkenazim se mettent vraiment à plat. Et c'est ceci, parce que ça se relie au problème de l'humilité. Étant donné que c'est l'attitude de l'humilité, seul celui qui est puissant a le droit d'avoir des conduites d'humilité, parce que chez lui, ça peut être authentique. Celui qui est naturellement humble, enfin, humble dans l'autre sens en français, vous avez compris, Ani et Anav. Celui qui est naturellement Ani, sa Anava est suspect. Mais celui qui est Achir, sa Anava est authentique. Vous voyez à peu près le problème. Parce que finalement, quand quelqu'un est humble dans le sens moral, qu'est-ce qu'il est en réalité? Humble ou impuissant? On ne sait pas encore. Ouais, j'ai exagéré un peu, mais vous comprenez quel est le problème. Par conséquent, quand le roi s'agenouille, ça c'est un agenouillement. Si, c'est pas de l'hypocrisie, bien sûr. Mais quand le roi s'agenouille, quand le grand prêtre s'agenouille, alors là, c'est l'agenouillement. Mais tout un chacun, qu'est-ce que tu t'agenouilles? Tu es né agenouillé, qu'est-ce que tu t'agenouilles? C'est debout. Bien, alors écoutez, je voulais vous demander, parce que certains d'entre vous sont arrivés à 11h30.
1, 2, 3, 4. Donc, de la Gemara, il est écrit qu'il faut toujours faire ceci par rapport à cela. Par rapport à A plus B égale OK, OK.
Voilà. Alors, on se retrouve donc demain à 11h.